Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire dans le deuxième livre, le chapitre 7 de Essai sur la guitare de Sri Aurobindo, qui a été traduit en français, traduit de l'anglais par Pavitra et Archaka. La parole suprême de la Gita. Nous voici à présent parvenus au cœur le plus profond du yoga de la Gita, en plein centre. Et tout y est vie et souffle de son enseignement. Nous pouvons voir maintenant assez clairement que l'ascension de l'âme humaine limitée, se retirant de l'ego et de la nature inférieure et passant en l'immuable moi calme, silencieux et stable, n'est qu'une première étape au changement initial. Et aussi, nous pouvons voir maintenant pourquoi, dès le début, la Gita a insisté sur l'Ishvara, le divin sous la forme humaine, qui toujours parle de lui avec un grand L, Aham-Mam, comme de quelque grand être secret et omniprésent. Alors je répète, c'est extrêmement important. Et aussi nous pouvons voir maintenant pourquoi, dès le début, la Gita a insisté sur Ishvara, le divin sous la forme humaine, qui parle de lui à Am, Mam, comme de quelque grand être secret et omniprésent, Seigneur de tous les mondes et Maître de l'âme humaine, plus grand même que l'immuable existence en soi, laquelle est à jamais immobile et inaffectée et demeure à jamais intouchée par les apparences subjectives et objectives de l'univers naturel. Tout yoga est une poursuite du divin, oriente vers l'union avec l'éternel. La façon de le chercher, la profondeur et la plénitude de l'union et l'intégralité de la réalisation dépendront de la justesse de notre perception du divin et de l'éternel. L'homme, l'être mental, approche l'infini au moyen de son mental fini et doit ouvrir sur cet infini quelques portes voisines appartenant à ce fini. Il cherche une conception dont son mental puisse se saisir, choisit un pouvoir de sa nature qui, en s'intensifiant au maximum, puisse atteindre, puisse toucher la vérité infinie, laquelle, par essence, dépasse sa compréhension mentale. Il tente de voir un certain visage de cette vérité infinie. Étant infinie, elle possède en effet d'innombrables visages. Il tente de voir un certain visage de cette vérité infinie étant infinie. Elle possède en effet d'innombrables visages, d'innombrables mots pour se définir, d'innombrables façons de se suggérer, de façon que, s'y attachant, il lui soit possible d'arriver par expérience directe à l'immesurable réalité que représente ce visage. Pour étroite que puisse être la porte, il est satisfait si elle lui offre quelques perspectives dans la vastitude qui l'attire, si elle le met sur le chemin de l'insondable profondeur des cimes, inaccessible de ce qui appelle son esprit. Et comme il s'en approche, aussi ce visage le reçoit-il. Ye yatamam pra padyate. Le mental philosophique essaie d'atteindre à l'éternel par une connaissance abstractive. Le propos de la connaissance est de comprendre, et pour l'intellect fini, cela veut dire définir et déterminer. Mais le seul moyen de déterminer l'indéterminable réside en une sorte d'universelle négation, neti neti. Dès lors, le mental continue en excluant de la conception de l'éternel tout ce qui s'offre et que peuvent limiter les sens, le cœur et la compréhension. Une complète opposition est faite entre le moi et le non-moi, entre une éternelle, immuable, indéfinissable existence en soi et en toute forme d'existence, entre Brahman et Maya, entre l'ineffable réalité et tout ce qui tâche à exprimer l'ineffable mais ne peut y réussir, entre karma et nirvana, entre l'action et la conception toujours continue mais toujours impermanente de l'énergie universelle et même suprême négation absolue et ineffable de son action et de sa conception qui est vide de toute vie, de toute qualité mentale et de toute signification dynamique. Cette forte impulsion de la connaissance vers l'éternel nous éloigne de tout ce qui est transitoire. Elle nie la vie afin de retourner à la source de la vie, retranchée de nous tout ce que nous semblons être afin que nous accédions en le quittant à l'impersonnelle réalité sans nom de notre être. Les désirs des cœurs, les œuvres de la volonté, les conceptions du mental sont rejetées, jusqu'à la connaissance qui, pour finir, est elle-même niée et abolie en l'identique et l'inconnaissable. Au moyen d'une grandissante quiétude, se déterminant par une passivité absolue, l'âme créée par Maya ou le faisceau d'association que nous nommons nous-mêmes entre l'inhalation de son idée de la personnalité mettant terme au mensonge de vivre, disparaît dans le nirvana. La grandeur de la pensée centrale de la Gita, celle où tout est rassemblé, uni, et unit tous ses fils, consiste en la valeur synthétique d'une conception qui reconnaît toute la nature de l'âme humaine dans l'univers et par une ample et sage unification ratifie son besoin multiple de la vérité, du pouvoir, de l'amour, de l'être suprême et infini vers lesquels se tourne notre humanité dans sa quête de la perfection et de l'immortalité. et de quelque joie, quelque puissance, quelque paix sublime. Il y a un vaste et vigoureux et fort dans le sens d'une vue spirituelle globale du divin, de l'homme et de l'existence universelle. Non pas certes que tout, sans nulle exception, soit saisi dans ces 8 chapitres, qu'il ne reste aucun problème à résoudre, mais un plan si important est exposé que nous n'avons qu'à remplir, développer, modifier, accentuer, pour suivre les points, faire ressortir ce qui est suggéré et mettre en lumière ce qui est esquissé, afin de trouver un fil d'Ariane pour tout ce que plus tard notre intelligence pourra réclamer et dont aura besoin notre esprit. La Gita elle-même ne formule aucune solution tout à fait nouvelle à partir de ses propres questions. Pour arriver à la globalité qu'elle vise, elle passe derrière les grands systèmes philosophiques et remonte au Vedanta originel des Upanishads, car c'est là que nous avons la vision synthétique la plus vaste et la plus profonde qui existe de l'esprit, de l'homme et du cosmos. Mais ce qui est dans les Upanishads n'est pas élaboré pour l'intelligence, étant enveloppé dans un lumineux noyau de vision intuitive et de formulation symbolique, la Gita le fait venir à la lumière d'une pensée intellectuelle et d'une expérience distinctive ultérieure. Dans le cadre de sa synthèse, elle admet la recherche que les penseurs abstraits font de l'indéfinissable, Anir Deshyam, l'immuable à jamais non manifesté, Avyaktam Aksharam. Ce qui se consacre à cette recherche trouve aussi le Purushottama, la personne divine suprême, Mam, l'esprit, l'âme suprême et le Seigneur suprême des choses. Car sa suprême façon d'être existante en soi est en réalité un positif impensable. Achitya Rupam, inimaginable, une quintessence absolue de tous les absolus qui dépasse de beaucoup la détermination de l'intelligence. La méthode de la passivité, de la quiétude négative, du renoncement à la vie et aux œuvres, par quoi les hommes cherchent à percevoir cet absolu intangible, est admise et ratifiée dans la philosophie de la Gita, mais ne reçoit qu'un consentement mineur. Cette connaissance négative aborde l'éternel par un seul côté de la vérité, et le plus difficile à atteindre et à suivre pour l'âme incarnée dans la nature. Dukkham Deavadir Avyapyate. Le chemin en est hautement spécialisé et même inutilement ardu. Aussi étroit et difficile à fouler que le fil d'un rasoir. Ce n'est pas en niant toutes les relations, mais en s'en servant que l'homme peut s'approcher naturellement l'infini divin et le saisir le plus facilement, le plus largement, le plus intimement, de façon de voir. Cette façon de voir qui veut que le suprême soit sans nulle relation avec l'existence mentale, vitale, physique de l'homme dans l'univers. Avyavahariyam. N'est après tout pas la vérité la plus vraie ni la plus vaste. Pas davantage ce que l'on décrit comme la vérité empirique des choses, la vérité des relations, Vyavahara. N'est tout à fait le connaître de la plus haute vérité spirituelle, Paramartha. Au contraire, il existe mille relations par lesquelles l'Éternel suprême est secrètement en contact avec notre existence humaine et unie à elle. Ce contact peut être rendu sensible et cette union réelle pour notre âme, notre cœur, notre volonté, notre intelligence, notre esprit, par tous les moyens essentiels de notre nature et de la nature du monde, Sarva Bhavena. Cet autre chemin est donc naturel et facile pour l'homme, Sukhamaptum. Dieu ne se rend pas pour nous d'un accès difficile. Une seule chose est nécessaire, une seule exigence stipulée, une volonté indomptable et unique de se frayer un chemin à travers le voile de notre ignorance et la recherche persistante et entière par le mental, le cœur et la vie de ce qui est tout le temps près d'eux, en eux, l'âme même de leur être, leur essence spirituelle et le secret de leur personnalité et de leur impersonnalité, de leur moi et de leur nature. Telle est notre seule difficulté. Le maître de notre existence prendra lui-même le soin du reste et l'accomplira. Aham tvam mokshayishyami ma sucha. Là même où dans son enseignement la synthèse de la Gita penche le plus vers une connaissance pure, nous avons vu qu'elle se prépare constamment pour cette vérité plus pleine et cette expérience plus significative. En fait, cela est sous-entendu dans la forme même que la Gita donne à la réalisation de l'immuable existant en soi. Cet immuable moi de toutes les existences paraît bien se tenir en arrière de toute intervention active dans les opérations de la nature. Mais il n'est pas absolument vide de toute relation, ni étranger à tout rapport. Il est notre témoin et notre soutien. Il donne un consentement silencieux et impersonnel. Il éprouve même un plaisir impassible. L'action polyvalente de la nature est encore possible lors même que l'âme est sise en cette calme existence en soi. Car l'âme témoin est l'immuable Purusha. Et le Purusha a toujours une certaine relation avec la Pakriti. Mais à présent, la raison de ce double aspect de silence et d'activité est révélée en son entière signification. Le moi silencieux et qui imprègne tout n'est qu'un côté de la vérité de l'être divin. Celui qui imprègne le monde en tant que moi unique et inaltérable, support de toutes les mutations, est également le divin dans l'homme, le Seigneur dans le cœur de toutes les créatures, la cause consciente et le maître de tout notre devenir subjectif et de toute notre action objectivée, objectivisée qui entraîne à l'intérieur et va à l'extérieur. L'Ishvara des yogis est un avec le Brahman de ceux qui cherchent la connaissance, un unique esprit suprême et universel, un unique divin suprême et universel. Ce divin n'est pas le Dieu personnel limité de tant de religions ésotériques, car ces dieux-là ne sont que des formations partielles et extérieures de ce divin. De cet aspect personnel, créateur et directeur de la complète vérité de son existence, ce divin est la personne, l'âme, l'être, le Purusha unique et suprême, dont toutes les divinités sont des aspects, dont toute personnalité individuelle est un développement limité dans la nature cosmique. Ce divin n'est pas telle forme et tel nom précis de la divinité, Ishta Devata, qui conduit l'intelligence ou qui personnifie l'aspiration particulière de l'adorant. Tous ces noms et ces formes ne sont que des pouvoirs et des visages de l'unique Deva, qui est le Seigneur universel de tous les adorants et de toutes les religions. Or, ce Deva est lui-même cette déité universelle, Deva Deva. Cet Ishvara n'est pas un reflet du Brahman impersonnel et indéterminable en une Maya qui induirait en illusion. D'au-delà de tout le cosmos, en effet, aussi bien qu'en le cosmos, il gouverne et il est le Seigneur des mondes et de leurs créatures. Il est le Parabrahman, qui est le Parameshwara, le Seigneur suprême. Parce qu'il est le Moi suprême et le Suprême Esprit. Et depuis sa suprême existence originelle, il engendre et gouverne l'univers, non point abusé par lui-même, mais avec une omnisciente omnipotence. Pas davantage le fonctionnement de sa divine nature dans le cosmos n'est-il une illusion, que ce soit de sa conscience ou de la nôtre. La seule Maya trompeuse est l'ignorante, l'ignorance de la Pakriti inférieure, non pas qu'elle soit créatrice des choses non et d'existence sur l'impalpable fond de l'un et absolu, mais parce que son aveugle fonctionnement encombré et limité donne au mental humain, du fait de l'ego et d'autres représentations inadéquates du mental, de la vie et de la matière, une image erronée du sens plus grand, des réalités plus profondes de l'existence. Il y a une nature suprême et divine qui est le vrai créatrice de l'univers. Toutes les créatures et tous les objets sont des devenirs de l'unique être divin. Toute vie, une opération du pouvoir de l'unique Seigneur. Toute nature, une manifestation de l'unique infini. Il est le divin dans l'homme. Le Jiva est esprit de son esprit. Il est le divin dans l'univers. Ce monde dans l'espace et le temps et le déploiement de son être en le phénomène. Alors je vais terminer par ce dernier petit paragraphe. Le yoga de la Gita trouve son sens unifié et son ampleur sans pareille dans le déroulement de cette vision globale de l'existence et de la supra-existence. Ce divin suprême est le moi unique, invariable et impérissable en tout ce qui est. L'homme doit donc s'éveiller au sens spirituel de cet invariable et impérissable moi et unifier avec celui-ci son être intérieur impersonnel. C'est le divin dans l'homme qui engendre et dirige toutes les opérations humaines. L'homme doit donc s'éveiller au divin en lui, connaître la divinité dont il est la demeure, s'élever hors de tout ce qui la voit et obscurcit, et s'unir à ce moi le plus profond de son moi, à cette plus grande conscience de sa conscience, à ce maître caché de toute sa volonté et de toutes ses œuvres, à cet être au-dedans de lui qui est la source et le but de tout son devenir varié. Il est le divin dont la divine nature origine de tout ce que nous sommes est recouverte d'un voile épais par ses dérivations naturelles inférieures. L'homme doit donc revenir de son apparente existence inférieure, imparfaite et mortelle, à sa nature divine essentielle, qui est d'immortalité et de perfection. Ce divin est un en toutes choses qui sont. Il est le moi qui vit en tout et le moi en qui tout vit et se meut. L'homme doit donc découvrir son unité spirituelle avec toutes les créatures, voir tout en le moi et le moi en tous les êtres, et même voir que toutes les choses et tous les êtres sont lui. Atma upamyana sarvatra. Et penser, sentir et agir en conséquence dans son mental, dans tout son mental, toute sa volonté, toute son existence. Ce divin est l'origine de tout ce qui est ici ou ailleurs. Et de par sa nature, il est devenu toutes ses innombrables existences. Abhut Sarva Bhutani. L'homme doit donc voir et adorer l'un en toutes choses animées et inanimées. Adorer la manifestation dans le soleil et l'étoile et la fleur, dans l'homme et chaque créature vivante, dans les formes et les forces, les qualités et les pouvoirs de la nature. Vasudeva Sarvam Iti. Par la vision divine et une divine sympathie et finalement, par une puissante identité intérieure, il doit se muer en une unique universalité à l'unisson de l'univers. Une identité passive et sans relation exclut l'amour et l'action. Mais cette unité plus vaste et plus riche s'accomplit grâce aux œuvres et à une pure émotion. Elle devient la source et le réceptacle, la substance, le motif et le divin propos de tous nos actes et de tous nos sentiments. Kasmai Devaya Bhashya Avishya Videma. À quelle divinité ferons-nous l'offrande de toute notre vie et de toutes nos activités? C'est lui, ce divin, lui, ce Seigneur qui réclame notre sacrifice, une identité passive et sans relation, exclut la joie de la dévotion et de l'adoration. Mais la bhakti est l'âme même. Le cœur est le sommet de cette union plus riche, plus complète et plus intime. Ce divin est l'accomplissement de toutes les relations. Père, mère, amant, ami, et refuge de l'âme de chaque créature. Il est le Deva unique, suprême et universel, l'Atman, le Purusha, le Brahman, l'Ishwara de la secrète sagesse. Par son divin yoga, il a en lui-même manifesté le monde de toutes ses façons. Les multiples existences de lui sont une en lui. Il est un en elle, sous de multiples aspects, s'éveiller à sa révélation en tous ces mondes à la fois et la part de l'homme dans le même yoga divin. Alors aujourd'hui, je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour la parole suprême de la Gita, de essai sur la Gita de Sri Aurobindo. Merci infiniment à la parole suprême de la Gita, Ganga Lakshmi. Merci infiniment à Auroville Radio pour me permettre de lire les écrits de Sri Aurobindo et de Douce Mère.